Anne.
Merci. Je remercie Daniel de l'invitation. Je vais essayer de tenir en un quart d'heure parce que je vais aussi me situer évidemment dans la continuité de ce qui a été dit. Je vais revenir dans un premier temps sur la définition des mots réussite scolaire, réussite éducative, puisque c'était des expressions qui étaient convoquées aujourd'hui. Dans un deuxième moment, c'est pour ça que je suis là, je vais regarder le problème du point de vue de ce que j'ai appelé l'éducation buissonnière adolescente dans ma dernière enquête. Et je reviendrai dans un troisième temps sur la relecture du socle commun et sur son articulation avec les deux premiers points. Qui est en réussite scolaire ? L'agrégé, a suggéré Anne tout à l'heure, l'enfant CAMIF, l'élève des classes préparatoires aux grandes écoles, certes, mais d'autres caricatures parfois nous font dire que cet élève peut être, n'est pas forcément un modèle de réussite, d'épanouissement personnel parfois. Hein, l'élève de CPGE qui a des grosses cernes, qui a enlevé tous ses loisirs et qui prend des médicaments pour tenir. C'est une caricature, mais elle existe. Est-ce qu'un élève de lycée professionnel peut être en réussite scolaire ? Oui, a dit Anne Armand, qui est choquée qu'on puisse ne pas le penser, mais parfois, on le sait bien, certains élèves ont un fort sentiment lorsqu'ils ont été orientés contre leur gré d'échec. Est-ce que le gentil jeune homme ou la gentille jeune fille du fond de la classe, qui est à côté du radiateur, qui rigole beaucoup, mais qui arrive quand même à avoir 10 de moyenne tout au long de sa scolarité péniblement, est-ce qu'elle est en réussite scolaire ? Bof, c'est difficile à dire. Mon point de départ est l'idée que si tout le monde, la thématique de l'échec scolaire est donc en contrepoint de la réussite scolaire est omniprésente aujourd'hui, elle a peine à s'incarner dans des images d'individus. Et mon hypothèse serait que si elle a peine à s'incarner dans des images, où il peut y en avoir de multiples, c'est précisément un des problèmes, c'est qu'elle est très autonome, elle est désencastrée, d'un modèle soit de réussite existentielle, plus large, réussir l'école, est-ce que c'est réussir sa vie ? Soit désencastré d'un projet un peu politique, sociopolitique, au sens large, de réussite. Or, en quelque sorte, alors, cette articulation, est-ce qu'elle a existé un jour ? C'est pas si simple de le dire, je vous propose un mot de recul, on va en revenir au présent. Au fond, la nostalgie française qui porte vers cette école de la citoyenneté, est-ce que la réussite scolaire était articulée à une réussite plus large, au sens où je le dis ? C'est pas si sûr. Il y avait bien un projet citoyen sur le primaire, mais les statistiques d'échecs au certificat d'études en 1930 ou 1940, chaque fois je révise mes chiffres quand je fais cours, tellement c'est énorme, parce que j'y crois pas moi-même dans mon souvenir, je crois que c'était 35-40% d'échecs, ce n'était pas une école de la réussite scolaire, c'était une école d'un modèle sociopolitique de formation de l'individu, très articulé à un moment historique particulier. La réussite scolaire était accessoire, était en tout cas dépendante de ce modèle-là, et vous savez bien que c'était une école qui n'était pas une école du tri, parce que le tri se faisait avant, et qu'il y avait une école du peuple, une école où finalement les gens étaient déjà sûrs de réussir au sens social avant le terme. Alors ce qui s'est passé avec la massification, si on y revient une minute, c'est que la réussite scolaire s'est désencastrée de toute autre préoccupation, et d'ailleurs, la focalisation sur l'échec scolaire est un peu paradoxale. L'échec scolaire ne focalise l'attention de tout le monde, y compris bien sûr du système scolaire, que depuis qu'il n'est pas scolaire. L'échec scolaire focalise l'attention de tout le monde depuis qu'il est un risque sur l'insertion sociale, la réussite sociale. Ce qui s'est passé avec la massification, c'est que la réussite scolaire est devenue à la fois un but en soi qui s'est rapproché de ce qu'on pourrait appeler finalement réussite sociale, en se rapprochant des demandes de l'économie, et s'est éloigné d'un projet socio-éducatif qui s'est mis à se brouiller. D'ailleurs, quand on regarde les curricula, puisqu'on est là pour parler des contenus aujourd'hui, et c'est très bien, on voit bien que tout ce qui concerne l'éducation civique, etc., s'est mis à décliner avec l'époque de la massification. Alors, est-ce que cette école n'avait aucun projet collectif ? Non, c'est faux de le dire. Elle avait un projet très mobilisateur qui était l'égalité des chances. la massification, l'ouverture des portes. En fait, il y avait deux projets qui s'articulaient, on peut dire, dans un cercle supposé vertueux. C'est l'égalité des chances et l'adéquation formation-emploi, quelque part. Hein, et le fait qu'on allait donner à la France une main-d'œuvre qualifiée à un moment de modernisation du pays. Il y avait bien un projet collectif, mais il ne donnait pas énormément d'image de ce qu'est l'individu, finalement, que forme l'école. C'était un projet, évidemment, très important, sans modèle de sujet fort, je pourrais dire, avec un côté très durkheimien, sans modèle de citoyenneté si forte que ça. Alors, ce projet, eh bien, inutile de... Toutes nos discussions encore aujourd'hui le montrent. Ce projet globalement fort, évidemment, il est érodé, il est brouillé lui-même par la subsistance et le fait qu'Anne Armand parle de manière aussi investie en tant que à sa fonction en dit long. Hein. L'égalité des chances, évidemment, est minée par cette désespérance permanente des inégalités scolaires, renforcée aujourd'hui par des phénomènes de ségrégation très spatiale. Et puis l'adéquation formation-emploi, on sait ce qu'il en est, mais la crise économique aussi est passée par là pour déstabiliser ce modèle. Alors je crois qu'aujourd'hui, du coup, ce n'est pas un lot de consolation, il y a une chance pour des perspectives plus éducatives, pour des interrogations qui, précisément, comme l'a dit Michel, font qu'on ne peut plus se satisfaire, on ne peut pas se satisfaire, on s'en est jamais tellement satisfait, du fait d'instrumentaliser complètement le système scolaire par rapport à cette insertion sociale, avec toutes ces conséquences qu'on voit, qu'il s'agirait d'une course scolaire qui commencerait où, quoi, 2 ans, 3 ans. Certains professeurs d'école que j'ai en cours à Descartes disent qu'ils sont catastrophés de voir les parents parfois commencer cette course si tôt en se demandant dans quelle classe on met pour plus tard, pour etc. On ne peut pas se satisfaire de cela, et il y a donc peut-être un renouveau de la question éducative. Oui, mais voilà, dans le même temps, les adolescents, les enfants, mon enquête portait plutôt sur des grands-enfants et des adolescents, nous posent question. Eux-mêmes participent au renouveau de cette question éducative parce que, pour dire les choses assez vite et assez caricaturalement, pendant que l'école ne sait plus trop quel sens donner à éducation, eux, en quelque sorte, ils s'auto-éduquent tout seuls. Alors, tout seuls. Pas tout seul, mais en marge des institutions, avec beaucoup de grandes marques, beaucoup de numérique, vous le savez, des associations, je sais qu'il y en a ici, des conservatoires sportifs, culturels, encore une fois, leurs ordinateurs. Ils s'auto-éduquent avec un constat de recherche qui peut paraître désarmant. Alors qu'à l'intérieur de l'école, on va facilement parler de décrochage. C'est sûr, encore que j'ai remarqué qu'on parle d'accrochage maintenant. On va être délibérément positif. Bon, décrochage, désengagement, démotivation. Quand les sociologues de la jeunesse font des constats, ils trouvent les jeunes surimpliqués dans un tas d'activités, passionnés de tas de choses, de foot, de loisirs, de chanteurs, de stars, du Japon, mais sans doute pas comme le prof de Géo l'entend, etc., etc. Ils sont surimpliqués, surmobilisés, font plein de choses. Ils sont suractifs. Alors que l'école les dit peu autonomes, ils sont au contraire, ils apparaissent, tout à fait défenseurs et gardiens farouches d'une autonomie juvénile acquise historiquement depuis les Trente Glorieuses. Bon, je passe là-dessus, on y reviendra si vous voulez. Donc, en fait, on peut défendre l'idée, c'était ma thèse dans le livre, qu'il existe une auto-éducation adolescente, une éducation informelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ça le mot, qui est, au sens, vous avez aussi employé le mot, qui est une confrontation au monde, dans un sens, au fond, que ne renieraient pas soit les Grecs, la païdéia grecque, soit, plus près de nous quand même, les romantiques allemands, la Bildung. On se confronte au monde, et on éprouve des choses difficiles. Alors, je ne vous fais pas un résumé du livre, mais à quoi on se confronte? On se confronte à l'excès numérique, mais on recherche des formes d'équilibre. On se confronte à la recherche d'intensité, des activités passionnantes, mais on s'ennuie des fois devant l'ordinateur. Alors, dit boulot-dodo, me disait une lycéenne, hein, qui aurait remplacé le métro boulot-dodo. J'ai trouvé la formule jolie. On se confronte à la recherche de soi-même. Toute une littérature le dit, l'exploration identitaire à l'adolescence qui prend aujourd'hui la forme de la recherche de singularité dans une société très formatée Par ailleurs, et là je cite toujours ma collégienne, je ne me rappelle plus son prénom, « Je voudrais bien être unique, mais voilà, tout le monde veut faire comme moi. Bon. » Et donc, vous voyez bien ici qu'on n'est pas, on est dans l'épreuve, mais l'exercice, des exercices un peu existentiels de soi, finalement, dans une épreuve qui va aussi, et c'est très important, se faire au milieu de groupes juvéniles, mais parfois aussi solitaires. Et pour finir sur ce point, des épreuves de formation qui, c'est un paradoxe, sont une recherche de gratuité au moment où aujourd'hui la scolarité est vécue comme utilitaire. Alors, pour l'historien ou le sociologue, en particulier de l'enseignement secondaire en France, c'est un renversement copernicien, puisque l'enseignement secondaire en France, avant la massification, était le lieu de cette culture humaniste, gratuite, élitiste bien sûr, mais où on formait l'honnête homme. Eh bien, on peut se dire que, alors qu'aujourd'hui tous les collégiens ou les lycéens disent, quand ils sont interrogés, bah, bien sûr qu'il faut aller à l'école, même les plus opposants, les plus dissipés vont dire « mais je joue ma trajectoire sociale ici, je veux un beau métier, je veux mon bac », eh bien, il y a une recherche de gratuité formatrice dans ce que j'ai appelé les activités électives. Il me semble aujourd'hui que, étant donné notre rapport aux adolescents et puis aussi l'évolution du système scolaire, l'évolution des professions de l'éducation, on ne peut pas réarticuler la réussite scolaire à une conception plus large de l'éducation sans faire quelque chose de cette auto-formation et de ces activités. Qu'en fait l'école ? Alors, je suis spécialiste de l'école, donc comme Anne, je suis la plus habilitée à en dire parfois du mal. Mais sans avoir fait d'enquête, je dirais bien aussi du mal un peu, parce que je pense que certains sont là et qu'il faut toujours, voilà, d'associations ou du péri-éducatif. Je pense que ce que je vais dire ne concerne pas que l'école. Je pense que cela peut concerner aussi, y compris l'éducation populaire, puisque vous êtes là. Que fait l'école et que font les institutions ou que font les organisations, les associations? Elles ont 4 réflexes. Premièrement, de se constituer en citadelle assiégée. Là, je parle peut-être plus de l'école. Il y a des contenus illégitimes. Il y a aussi, évidemment, tout un tas d'allusions au monde, à l'actualité, à des contenus, je dirais, culturels qui sont peu reconnus par l'école et qui lui paraissent tout à fait... contraire à ses principes, il y a aussi des rumeurs sur Internet, enfin, il y a tout un tas de choses face auxquelles elle se constitue, bien sûr, à juste titre, en opposition. Le deuxième réflexe de l'école, c'est parfois une espèce de réflexe mimétique ou modernisateur à tout prix. Bon, les élèves vont vite, alors il faut aller encore plus vite, il faut faire des exercices très courts. Bon, ils aiment le numérique, alors on met des ordinateurs partout. Enfin, on a du mal parce qu'on n'a pas d'argent, mais on essaie, etc. Ou alors, bon, bah, ils aiment bien, il y a des compétitions ludiques, alors il faut mettre du ludique partout. Bien sûr, ici, la culture scolaire se nie elle-même dans un certain nombre de choses, les temporalités longues, cumulatives, et puis aussi une certaine distance, évidemment, à la société et à la société telle qu'elle est, qui a toujours constitué aussi le projet éducatif de l'école. Le troisième réflexe de l'école et des associations, c'est essayer de phagocyter ces énergies des jeunes. Hein, donc, ils ont de l'énergie sportive, etc., dans les activités musicales. Alors, essayons d'en profiter à l'école. Mais en scolarisant ces activités, eh bien, parfois, là aussi, c'est un échec, car l'autonomie juvénile est là pour dire... Ben non, le basket, j'en fais comme je veux à l'extérieur, mais ce n'est pas forcément le basket scolaire, etc. Enfin, j'insiste sur un dernier point très important. Un des réflexes de l'école pour tenir, y compris dans les contextes d'éducation populaire, d'éducation prioritaire dont on a parlé, c'est de ne réserver la reconnaissance de cette auto-formation ou de ces compétences juvéniles qu'aux élèves en difficulté, pour tenir, tout simplement. Ma dernière enquête est une enquête sur l'éducation artistique et culturelle en Seine-Saint-Denis. Je la continue cette année. J'ai été quand même hallucinée de voir comment dans certains collèges en banlieue, eh bien, pour tenir, on garde inchangé une culture scolaire avec des classes et tout ce qui va avec, des élèves un peu désespérés, les exclus de l'intérieur, comme disait Bourdieu, et on empile autour de la citoyenneté, de l'estime de soi, de la vidéo, enfin, on pile plein de choses, vous voyez par cœur, voilà. Et donc, en fait, du coup, cette ouverture apparaît comme un lot de consolation, compensation, tu as dit, Daniel, en introduction. Et donc, bien sûr, même si ce n'est pas toujours très objectivable, enfin, ce n'est pas très facile à mesurer, on peut être sûr que cela creuse les inégalités. Pendant que certains vont au musée, c'est bien d'aller au musée, les autres font des équations du second degré dans leur collège de centre-ville. Il me semble donc que cette éducation, cette auto-éducation juvénile doit être prise en compte d'une autre manière. Alors, la dernière question, j'ai déjà épuisé presque toutes mes 20 minutes, c'est comment positionner le socle commun et cette réflexion que je trouve très positive, bien sûr. Et la question du renouveau curriculaire en France, elle est quand même très bien comprise pour les sociologues. Moi, je suis sociologue parce qu'on avait quand même fait en France l'économie de toute une analyse sur les contenus. En ne s'intéressant qu'à la morphologie, qui a été aussi, ça a été une réussite quand même, cet accueil pour tous, mais vu de manière trop morphologique, on a fait une économie de réflexion sur ces contenus. Alors, j'ai relu le socle commun pour, le nouveau socle commun pour venir devant vous aujourd'hui, et j'ai trouvé des liens forts avec cette prise en compte éventuelle d'une diversification des talents et d'une prise en compte de cette auto-formation, non pas pour s'y plier, mais pour la reconnaître. Je dirais quelques dimensions très rapides. Beaucoup d'allusions à l'expression et à la créativité. Enfin, je pourrais relire le socle, vous l'avez fait, on trouve beaucoup ici d'allusions. Un infléchissement que j'ai trouvé considérable avec l'allusion au corps, à la sensibilité, à l'émotion. Et là, on est quand même en rupture, il va falloir l'assumer. Avec une certaine conception assez désincarnée de la culture scolaire française. C'est une rupture que j'approuve, mais je vais dire que ça ne me paraît pas facile. Et puis, un dernier point, qui est évidemment l'allusion massive à l'engagement, au lien avec les autres. Et c'est un point fondamental, et je terminerai là-dessus. Pour autant, ce n'est pas gagné. Je voudrais ouvrir trois chantiers, pour ne pas être longue et répondre plutôt à vos questions. Ce n'est pas gagné, car ce qui est proposé, d'après moi, c'est une refondation de l'école par sa culture scolaire, par les contenus. Alors, je voudrais évoquer trois points qui me paraissent problématiques, très rapidement en conclusion. Je retrouve mes trois points. Premièrement, il me semble qu'un chantier est évidemment autour de la définition de ses contenus, hein, en prenant cette distance modérée, comme a dit Michel, aux disciplines qui sont aussi importantes. Mais je dirais, un thème qui m'est cher, c'est qu'il faut peut-être renouveler aussi les exercices scolaires en tant que tels. Dans mon enquête sur l'éducation culturelle et artistique, j'ai été frappée de voir comment les profs le font, en fait, au jour le jour. Ils cherchent, alors là, c'était plutôt des profs littéraires, mais ils cherchent des exercices expressifs créatifs. Ils font faire des pièces de théâtre. Ils cherchent des exercices qui ont du sens en eux-mêmes et pas seulement pour la certification scolaire. Je pense que c'est important et ça peut réserver des surprises. Je fais toujours un petit coup de chapeau au livre d'un collègue, Patrick Rayou, qui a montré comment la dissertation, cet exercice fusillé par les sociologues de la reproduction, non, comme étant très élitiste, certes, le rester, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais gardait du sens pour les élèves de banlieue avec lesquels il avait fait l'enquête, parce qu'il y avait ce côté dire son avis sur le monde, exprimer, argumenter. Donc, je laisse de côté les problèmes d'inégalité qui sont importants, mais cet exercice a du sens en dehors même de la note. Mais c'est un problème si on a tout le temps des mauvaises notes. Donc, refonder les contenus, mais refonder aussi des exercices, me semble extrêmement important. Deuxièmement, bon, là, tout le monde le sait, mais je vais quand même le redire, il y a un super gros problème autour de l'évaluation et de la validation. Si on dit qu'il y a, moi je l'ai lu dans les textes officiels de projets de socle, il y a des vraies ressources pour diversifier les talents. Le sport, disait Michel, ou en évoquait aussi des choses. Si ce n'est qu'on va se heurter à un problème, dans ces cas-là, comment refuser de valider ou d'évaluer un certain nombre de pratiques, d'expériences qui se situent soit dans des espaces éducatifs en dehors de l'école, soit dans un espace d'autodidaxie adolescente qu'il faut accompagner. Et là, évidemment, je ne peux qu'être très critique devant une certaine schizophrénie de l'institution qui ne cesse de déclarer importante, fondamentale, des choses qu'elle met en périphérie totale du système. C'est le cas de l'instruction, de l'éducation civique, de la citoyenneté. Balion disait déjà dans les années 80 que si la citoyenneté est déléguée, c'est si important, bah, il faut que ça valide quelque chose dans le parcours, parce que sinon, les délégués... Alors, ce qui se passe, j'ai assisté à une séance cette semaine où il y avait un délégué général d'un syndicat lycéen. Ce qui se passe, c'est que ce sont des jeunes gens qui veulent s'orienter dans la politique, en fait, qui très souvent prennent des fonctions très lourdes à l'intérieur du système, ce qui est une manière de le rentabiliser, mais ce n'est pas gérable. Donc là, il y a la question de la validation et de l'évaluation qui est extrêmement importante. Et le dernier chantier, je pense, qui recoupe les deux autres, c'est le travail sur le rapport au collectif, avec un chantier très lourd, parce que je pense qu'au fond, on n'est pas si démunis que ça en termes de projet éducatif global. Il me semble, même si avec François de Singly, dans une autre commission un peu parallèle sur l'enfance et l'adolescence pour le Premier ministre, on a travaillé un an, on n'a pas réussi à trouver un bon mot. On a trouvé individu relié, individu en lien. Ici, on a dit vivre ensemble. Il y a quelque chose comme un modèle alternatif à ce tout réussite scolaire, à ce tout compétition scolaire, qui, je crois, peut faire consensus politique au sens large, autour de cette cohésion sociale, et on en revient évidemment aux événements de janvier. Sauf que ce lien individu collectif, et je termine là-dessus, il ne peut pas, au fond, on dirait bien, c'est ça être citoyen aujourd'hui. Sauf que quand on dit le mot citoyen, il y a un malentendu, parce que la citoyenneté républicaine traditionnelle, elle renvoyait à quelque chose de très abstrait dans le lien individu-collectif, quelque chose de très abstrait qui ne marche plus, y compris quand on demande une minute de silence pour les victimes des attentats. Il y a quelque chose de très descendant, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, je pense que le modèle de la citoyenneté doit être revu à la lumière de quelque chose de beaucoup plus incarné dans le lien entre individu et collectif. Et j'en reviens à ma culture juvénile, car n'en déplaise à certains sociologues qui vont un peu rapidement selon moi, il ne s'agit pas massivement de conformisme juvénile. Peut-être dans certains cas, mais les jeunes l'éprouvent comme de la violence, très souvent, comme de la pression. Il s'agit de se forger dans et par des collectifs. Or, cela, l'école, en tout cas dans son socle commun, alors à Polytechnique ou à Sciences Po, on m'a dit qu'on mettait des notes pour des collectifs, qu'on travaillait sur les collectifs. Dans le privé, ça arrive aussi. Dans les établissements d'excellence, on travaille ce lien en collectif. Mais je crois qu'aujourd'hui, et dans le primaire et dans le secondaire, on ne le travaille pas beaucoup. Et je pense que c'est là-dessus, peut-être, que doit se refonder quelque chose comme un modèle général qui peut réarrimer la réussite scolaire à un projet social plus large. Voilà.
Merci. Alors, j'ai déjà pris la parole, donc je ne veux pas la monopoliser, mais vous parlez de la nécessité de penser, de faire quelque chose, pardon, oui, avec les différents acteurs qui sont ici présents, de cette auto-éducation des adolescents.
Oui.
Et, en même temps, vous dites ce qui se passe aussi dans les institutions scolaires, c'est qu'elle a tendance à phagocyter cette auto-éducation.
Oui.
Donc, je suis tout à fait d'accord. Et je me dis, mais est-ce qu'on ne risque pas, en voulant faire beaucoup de choses à l'école et reconnaître tout un tas de talents ou prendre en compte cette... ces aspects de l'auto-éducation dont vous parlez, est-ce qu'on risque pas de faire de l'école une institution, j'emploie le mot à dessein, hein, une institution un peu totalitaire, quoi, qui fait tout. Et je suis d'accord qu'il faut prendre en compte plein de choses. L'école ne peut pas vivre en autarcie, ça c'est une chose, mais on ne peut pas tout lui demander. Et je pense, c'est un peu décousu, excusez-moi, mais je pense à une remarque de Bernard Lahire dans un article dont j'ai plus le titre, qui dit que quand on critique l'acquisition de techniques intellectuelles à l'école primaire, cette tentation de critiquer l'objectif de l'école de faire acquérir aux élèves des techniques intellectuelles et de s'en tenir dans un premier temps à ça, et ben cette critique-là, elle a des présupposés élitistes. Donc vouloir faire de l'école quelque chose dans lequel vouloir faire de l'école... un lieu où finalement on prend tout en compte et où on laisse pas d'espace un peu neutre, parce que les adolescents, je pense que dans ce que vous évoquez, j'ai, j'ai pas lu votre ouvrage, mais ils ont besoin aussi de ces espaces sur lesquels l'institution scolaire n'investit pas, n'intervient pas. C'est extrêmement important.
Ouais. Merci. Paul, une deuxième devant.
Oui, je m'excuse aussi, madame, de reprendre une deuxième fois la parole, mais le titre, c'est réussite scolaire, réussite éducative aussi. Hein. Donc c'est sur ce point de vue-là que je voudrais intervenir. Parce qu'autant je crois à ce qui est dit de refonder l'école à partir des contenus, c'est vrai, je pense qu'il y a quelque chose à faire et qui a été dit de façon très intéressante. Et aussi par rapport à la pédagogie, hein, vous parlez du collectif, ok. Mais je crois aussi que la question de l'ouverture de l'école, elle est fondamentale. Et qu'il y ait d'autres référents adultes que l'enseignant. Et là, juste vous dire une petite expérience que j'ai constatée, c'est que moi, j'ai mis en place le PEDT à Grenoble. On a dû, et je crois beaucoup à la fois au PEDT et à l'initiative du périscolaire. Hein, et le fait d'avoir mis en place dans les écoles de Grenoble 600 nouveaux animateurs périscolaires, ça change, je crois que ça va changer une partie de la donne. Alors, il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup. Mais parce que ces animateurs, ce n'est absolument pas le profil des enseignants en général. Et c'est très intéressant parce qu'on a un profil là beaucoup plus populaire qui rentre dans les locaux de l'école, dans un moment bien sûr en dehors du temps scolaire, mais le temps scolaire c'est que 10% du temps de l'enfant. Hein. Donc, et je crois qu'il va se passer peut-être des choses que Payon n'a pas mesurées par rapport à ça, mais que ça va contribuer à permettre qu'il y ait d'autres images d'adultes, d'autres référents, voire d'autres catégories sociales, d'autres façons de penser différentes dans l'école avec ces animateurs, quand on arrivera à la fois à les former et à la fois à ce qu'ils proposent des activités suffisamment de qualité. Ça, c'est tout le boulot qu'il y a à faire maintenant. Hein. Mais je pense que ça aussi, c'est intéressant. Ouais. Et il y a d'autres aspects de l'ouverture de l'école.
Mais je voudrais répondre parce que je pense qu'il y a un malentendu. Alors, c'est peut-être parce que j'ai été vite ou parce que j'ai dit que j'étais spécialiste de l'école. Ça, c'est possible aussi. Je suis frappée de voir comment dans des assemblées telles que celle-ci ou bien là où j'étais avec François de Saint-Gly avant-hier, ce terme de scolaro-centré. Hein. C'est incroyable, on l'entend de plus en plus, évidemment, avec une portée critique. Alors, moi, j'ai pas d'avis de spécialiste là-dessus. J'ai fait partie d'une commission nationale aussi sur l'éducation artistique et culturelle et parcours, vous savez, où finalement, on s'est entendu pour dire que, bon, cette question de la centralité de l'école, elle était vraiment posée. Le territoire aussi fait des inégalités, si on le laisse à ça. Si on le laisse aux inégalités territoriales telles qu'elles sont. Donc pour moi, c'est une école où d'autres gens peuvent rentrer. Anne Armand l'a dit. Où d'autres activités peuvent être validées. J'entre pas dans l'histoire, le problème organisationnel qui est grand aussi, hein, de comment organiser tout ça, les rythmes éducatifs, etc. Donc pour moi, c'est une école qui est capable de reconnaître qu'on a des pratiques, qu'on peut valider des pratiques et des expériences auxquels sont peut-être associés les enseignants, auxquels peut-être pas. Donc, c'est clair, c'était clair pour nous dans la proposition. Mais la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à la première remarque, c'est que non, ce n'est pas une école totalitaire, au sens où cette marge d'autonomie adolescente, bien sûr qu'il faut la laisser vivre, y compris, mais ce que la France a quand même vraiment du mal à faire, c'est qu'elle échoue à en reconnaître tout le potentiel éducatif, y compris de cheminement. On parlait de ce sigle invraisemblable là, sur l'orientation. Je ne connaissais pas le sigle comme ça, mais... Merci. Mais en fait, les adolescents cherchent des formes de cheminement ou d'orientation dans leur passion aujourd'hui, d'une manière totalement, parfois inconnue du système scolaire lui-même. Hein. Et parfois, ils y arrivent. Hein, dans une confrontation à des sortes de chemins très alternatifs à l'école qui peuvent passer y compris par des associations, etc. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Et par ailleurs, réduire aujourd'hui, enfin, si je vous ai bien compris, je pense que c'était le débat un peu pédagogique hein, sur qu'est-ce qui est élitiste et tout, l'affirmation forte, c'est que si on dit que c'est important d'avoir des expériences en collectif, je dirais, alors on parle beaucoup du service civil, mais qui est une tranche d'âge un peu au-dessus, bah dans ce cas-là, ça doit être obligatoire pour tout le monde, pas que dans les mauvais collèges. C'est-à-dire que si on dit que c'est très important d'avoir une pratique artistique, Oui, mais dans ces cas-là, c'est pour tout le monde. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, qui ne va pas, c'est que l'appel à ces compétences se fait de manière alternative en cas d'échec scolaire. Si on dit que c'est un socle commun de formation, et moi, c'est ce que j'ai entendu dans les propos d'Anne Armand et de Michel Lussault, alors, si on dit que c'est une culture partagée, alors c'est pour tout le monde qu'il faut instaurer ces activités-là. Sinon, ça n'a effectivement pas de sens.
J'ajouterais bien deux phrases à propos de la façon dont les adolescents se forment entre eux. On a fait une étude à l'inspection générale qui n'a pas été publiée. Toujours intéressant, les rapports qui ne sont pas publiés. Sur le parcours de l'élève, en interrogeant, on a fait 400 monographies, c'est pas beaucoup, hein, mais enfin 400 monographies d'élèves de la voie professionnelle. Et pratiquement sur les 400, la question, qu'est-ce qui a fait, alors là on était sur des élèves qui avaient voulu être là, hein, qu'est-ce qui a fait que vous êtes là? On n'a jamais trouvé les conseillers d'orientation, c'était toujours, mais toujours, 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 les autres, les copains...
Masterchef.
Oui, alors, voilà. Hein, un ami des parents, ouais. Etc. Bon, voilà, je dis simplement que ce rapport n'a pas été publié.
C'est dommage.
Et puis...
on le regrette tous.
Voilà. Et puis, une autre difficulté qu'on a, alors, avec les... on est en train de dire qu'on ouvre l'école aux parents, la parentalité, enfin, etc., et on doit lutter, nous, de l'intérieur, terriblement, pour que, par exemple, dans l'aide aux devoirs, on ne transforme pas les parents en sous-profs. C'est-à-dire qu'on essaye de dire que les parents qui viennent pour aider aux devoirs, ils sont là en tant que parents et pas en tant que répétiteurs d'un professeur qu'ils ne pourront pas être tout à fait. Donc, vous voyez, il y a des malentendus, il y a des verrous là qui sont difficiles à faire sauter.